Tous ou Rien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons rien, ou presque.
Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle tisse des liens entre F. Merjanov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction, l'art de tirer par les cheveux.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates, nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Nanette Escartefigue.
Héroïne malgré elle de roman pseudo-historique.
Fille du rien.
Anne-Catherine Escartefigue naît le 18 janvier 1774 à Saint-Martin-de-Palière dans le Var, un village d'environ 400 habitants. Parfois aussi écrit Scarchefigue, le terme escartefigue désigne la fauvette bec-figue, grande consommatrice de figues qu'elle éventre pour en manger l'intérieur. Le verbe occitano-provençal escarchar signifie déchirer, mettre en lambeaux. Surnommée Nanette, Anne-Catherine est la dernière née du couple Joseph Martegot Escartefigue et Thérèse Justine Prévereau, qui ont déjà procréé 5 autres enfants depuis leur mariage en 1762. 4 mâles et une femelle, selon l'état civil, née entre 1763 et 1772. Des 2 précédents mariages de son père, Nanette possède 4 demi-sœurs qui sont déjà toutes mariées. Martegot exerce le métier de charbonnier et Thérèse, celui de blanchisseuse. Après la mort de Joseph en octobre 1774, Thérèse Prévereau se remarie avec François Francio Gascon, charbonnier de métier. La famille recomposée habite une maison à Saint-Martin-de-Palière appartenant à Joseph Icard, qui vit aussi et y tient une auberge. Il possède en outre quelques terres agricoles. En 1788, Suzanne, la sœur de Nanette, se marie avec Claude Gascon et quitte le village pour s'installer à Cuers. Mais après la mort de Claude, elle part s'installer en septembre 1800 à Aix. Elle trouve un travail de domestique chez un charcutier de la ville et n'a que très peu d'occasion de retourner voir sa famille dans le Var. Lorsque le dernier de la fratrie à se marier en 1794 quitte la maison familiale, Nanette reste avec sa mère et son parâtre. Elle exerce aussi l'activité de blanchisseuse pour survivre. Elle est, selon certains, illettrée. Sans savoir si cela relève de la rumeur publique et du dénigrement ou d'une réalité, elle jouit dans le pays de la réputation d'une fille débauchée, selon 2 de ses voisines, dont l'une d'elles sous-entend que Nanette est une prostituée. Mi-novembre 1802, profitant de l'absence du parâtre, 2 inconnus s'introduisent dans la maison, menacent Thérèse et violent par 2 fois Nanette. Si ce viol avait eu pour conséquence une fécondation non désirée, hormis l'abandon, il ne lui restait que la solution de l'avortement mécanique ou celui de l'infanticide au terme de la grossesse, s'exposant au risque de complications mortelles ou aux foudres de la justice. De ce que nous savons de la vie de Nanette à cette époque, le mot qui s'en rapproche le plus est « rien ».
Alors je t'amène avec moi. Getchi, getchi, ya, ya, da.
Enrobage historique. Les régions de la Provence intérieure vivent au rythme des secousses des lendemains révolutionnaires. Les plus pauvres cherchent ce qu'ils sont censés avoir gagné, et les plus aisés tentent de conserver ce qu'ils sont censés avoir perdu. Les oppositions entre monarchistes et républicains sont une succession d'affrontements armés, de révoltes populaires villageoises, de pillages, d'assassinats ciblés et de demandes répétées à plus de répartition des richesses. Le redécoupage administratif de la Provence après la Révolution française de 1789 et l'annexion de nouveaux territoires instaure à la place quatre départements. Les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, les Basses-Alpes, aujourd'hui Alpes-de-Haute-Provence, et le Var.
Je touchais au but. J'étais le golden boy de la politique, le grand espoir. J'avais toutes les relations, les contacts. J'étais sur le point d'y arriver, mais j'ai pas mobilisé assez d'électeurs. J'ai pas assez le culte de la personnalité, c'est pour ça, je crois.
C'est difficile d'avoir une relation authentique avec les gens.
Je sais. Et j'ai tout essayé, vous pouvez me croire. J'ai mis l'accent sur le côté racial, mais aussi sur les non-genrés, les trans, les migrants, les sans-abri, les guerres en général, les élections, sans oublier l'avortement, le climat... J'ai aussi parlé des fours à induction, d'Israël, des bibliothèques, des vaccins, des pronoms, des AK-47, du socialisme, du Black Lives Matter, des ressources territoriales, du logement, de l'inclusion, de la 5G. J'ai tout dit et j'ai pas récolté un électeur. Je sais pas pourquoi, mais les gens s'intéressent à rien.
Il faut peut-être en revenir aux fondamentaux. Vous comprenez, les premières pierres de l'édifice pour inspirer une authenticité profonde.
Quoi, les bases ? Leur faire peur avec quelque chose qu'ils détestent et leur faire croire que ça va leur enlever ce qu'ils aiment ?
La loi du 23 août 1793 sur les réquisitions est votée afin de faire face aux besoins des nouveaux soldats pour se battre contre les Anglais et les Espagnols, soutien de la monarchie déchue. Tous les hominimes mâles sont ainsi invités à venir gaiement donner leur vie pour la patrie en danger. Beaucoup refusent. Ceux qui le peuvent parviennent à fuir à l'étranger. D'autres se cachent dans les grandes villes, et d'autres encore préfèrent se réfugier dans les arrière-pays de la côte méditerranéenne varoise. La loi du 25 décembre 1795 punit de la peine de mort quiconque incite à la désertion, à rejoindre l'ennemi ou des bandes de brigands et rebelles. Celle du 14 novembre 1797 punit d'une amende et de 1 ou 2 ans de prison toute personne accusée d'avoir caché un réquisitionnaire ou aidé à son évasion. Les incitations à rejoindre les rangs de l'armée française sont multiples,
faisant appel aux récents sentiments patriotiques, à la crainte d'une répression féroce ou à un argumentaire qui ferait perdre la tête à Olympe de Gouges.
Et vous, filles vertueuses, dont la main et le cœur sont promis à ces jeunes défenseurs, ranimez leur courage, faites-les voler au combat, tressez-leur des couronnes, à leur retour, couverts de lauriers, ils seront plus dignes de vous. Mesurez le degré de votre estime et de votre amour pour eux sur le nombre de leurs hauts faits et de leurs victoires. Que l'hymen vous unisse alors. Adresse des administrateurs aux jeunes gens du département des Basses-Alpes, 22 septembre 1793.
Les guerres napoléoniennes accentuent la pression contre les jeunes hominines mâles, toujours plus nombreux à mourir pour les rêves de grandeur du nouvel empereur, toujours plus nombreux à refuser de rejoindre les armées. Contraints à une certaine forme de clandestinité, de jeunes varois déserteurs ou réquisitionnaires de l'arrière-pays s'organisent en bande pour résister aux militaires qui les traquent. Régulièrement rejoints par des citadins, déserteurs eux aussi ou malfrats, à la recherche d'une vie paisible. Se forment ainsi des bandes de brigands qui multiplient les attaques contre des convois postaux, des marchands et des marchandises en transit, les volent dans des maisons isolées et s'affrontent régulièrement avec des militaires qu'ils n'hésitent pas à abattre.
Nous sommes ici trois réquisitionnaires. On parle encore de nous faire marcher par force. Qu'en pensez-vous? Que voulez-vous faire? Quant à moi, je ne marcherai pas. Je préfère m'enrôler dans les bandes de brigands. J'aime mieux mourir ici le ventre plein de poulet qu'à l'armée le ventre plein de pain de munitions.
De par sa configuration géographique, l'arrière-pays fournit un endroit idéal pour qu'y apparaissent des phénomènes de brigandage.
Ce brigandage, qui fut l'élément central de l'histoire régionale à la fin du Directoire et dans les deux premières années du Consulat, a sévi surtout, comme il est naturel, dans les zones escarpées et boisées naturellement propices aux refuges. Et traversait pourtant de routes importantes où circulaient, comme autant de proies, voyageurs riches et commerçants. La région qui l'a intéressé avant tout forme le nord-ouest du département du Var, le nord-est des Bouches-du-Rhône, le sud-est du Vaucluse et le sud-ouest des Basses-Alpes. Un quadrilatère Brignoles, Aix, Pertuis, Manosque l'enfermerait assez bien. Géographiquement, c'est un pays complexe qui va des montagnes de la Sainte-Baume à celles du Luberon, en passant par ses hautes et ses grands plans arides que traverse le Verdon inférieur avant de se jeter dans la Durance. C'est un pays de transition entre Haute et Basse-Provence, pas encore montagneux sans doute, mais déjà trop froid pour l'olivier. L'on y vivait du blé, du mouton et de la forêt. Et surtout, l'on voyait s'effectuer une intense activité d'échange dont la route d'Italie et la route des Alpes n'étaient que les deux axes principaux, mais pas du tout les seuls. Loin de là, la majeure partie de cette région appartient au Var. Maurice Agulon, sur l'instruction élémentaire en Provence intérieure au temps du Consulat, 1964.
Les tentatives de venir à bout de ce phénomène par une présence militaire accrue, via des patrouilles et des battues, ne suffisent pas à éradiquer les différentes bandes qui se constituent et n'hésitent pas à s'unir au gré des opportunités et des bons coups. Excédés, les autorités françaises désignent les arbres bordant les chemins nouvel ennemi intérieur dont il faut se débarrasser. Le 8 février 1800, le commissaire du département des Basses-Alpes ordonne aux administrateurs des cantons situés dans l'arrondissement de Digne de faire couper jusqu'à 60 toises, une centaine de mètres, les bois longeant certaines routes. Et le 3 août 1800, une amnistie est proclamée dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme, du Vaucluse et des Basses-Alpes pour ceux des réquisitionnaires qui rejoignent les rangs, et des menaces sont lancées contre les brigands accusés d'être des sectateurs du système antisocial. Pour les autorités, ce brigandage est le fait de cinq bandes surnommées selon les noms de certains villages locaux, tout en reconnaissant qu'elles se font et se défont au gré des opportunités, qu'elles unissent temporairement des hominines et qu'elles se restructurent en permanence en réaction au nombre mort parmi elles. À la tête de chaque bande était un chef élu. Généralement plus hardi, plus entreprenant, plus intelligent que les autres, il recevait les correspondances, entretenait des relations avec les bandes voisines et les complices, dirigeait les expéditions, donnant le signal de l'attaque et celui de la retraite quand il jugeait que l'expédition avait assez duré. Un signe extérieur particulier, tel que chapeau de général avec panache, grande médaille pendue au cou, etc., le distinguait de ses séides, sur lesquels il exerçait un pouvoir absolu. Il ne prenait, dans le partage du bulletin, que la part commune qui lui revenait. Contrairement à quelques petites bandes royalistes actives dans la région, la plupart des brigands ne semblent pas avoir de revendications politiques, hormis le refus d'être militaire, évidemment. D'après Joseph-Marie Morel, parmi les jeunes brigands, il se disait qu'après des attaques de magasins ou de passants, des bandits marseillais, dans un geste de défiance vis-à-vis de la police, placardaient des affiches sur les murs avec le slogan suivant.
Nous avons volé, nous volons, nous volerons.
Sale toxico, tu t'es gavé. Regarde-toi, t'es trop défait. Je vais t'apprendre le THC. Arrête la blanche, tu vas classer. Seul la BR pourrait te faire retrouver la santé. Où mes doigts pris à effriter. Je fumais, je fumais, je fumerai. Et quoi que tu fasses, la baie est partout où tu regardes. Dans les moindres coins de ta race. Dans le moindre squat où tu t'attardes. La beuh comme si on pleuvait. Viens nous défoncer.
Outre qu'il permet à des réquisitionnaires d'échapper à la capture, le brigandage induit tout un réseau de connivence entre celles et ceux qui y participent et en tirent profit selon leur implication. Informateurs, receleurs, hébergeurs ou soutien logistique, l'économie du brigandage met du beurre dans les épinards, mais ne permet pas un enrichissement de celles et ceux qui se contentent pas de leur métier qui, bien souvent, est insuffisant pour survivre. À de très rares exceptions, le brigandage est une activité de pauvres. Si le discours des autorités politiques les dénigre et les qualifie de contre-révolutionnaires, d'anarchistes, de chauffeurs ou de tout autre nom d'oiseau, des papiers retrouvés après l'explosion d'Aups sur le cadavre de Dorel sont signés simplement « pauvres fuyards ».
Coming now. Chantre au coast, boire un verre. Mais la serveuse me pompe l'air. J'ai pas la réservation. Je ressors, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Zadi et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock. Mais y'a la rupture de stock. Ça m'énerve. J'arrive sur mon Vespa, on me dit tu rentres pas, ça m'énerve. J'entre chez Weston, une blonde asse au téléphone me dit
je peux vous aider?
Non, je vous ai pas sonné, elle m'énerve. Mon Dieu, elle m'énerve. J'ai bu le mojito au milliardaire. Dans le carré, j'ai tout vomi par terre. J'ai perdu mon ticket pour le vestiaire. Je trouve pas de taxi, ah, c'est la guerre.
Pour oublier
m'énerve tous ces gens qui font la queue chez la durée. Tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons.
Toutes celles qui dansent sur le dance floor comme des princesses. Si t'as la black card, et ben tu verras leur fesse.
Ça m'énerve.
Les méthodes de brigandage consistent principalement à dévaliser les porteurs de marchandises et de richesses sur les routes et chemins de la région, à piller des maisons isolées et parfois à attaquer des villages. Ceux qui résistent sont mis à mort, les autres sont épargnés. Si celles et ceux qui sont assaillis ne révèlent pas où se cachent leurs biens, les brigands n'hésitent pas à leur extorquer par la force, les menaçant, les molestant. Certains font mention de torture par la technique dite de la chauffe, qui consiste à brûler les pieds pour faire parler. Plusieurs viols sont aussi commis par certains brigands contre des voyageuses ou des femmes présentes sur les lieux attaqués, par ceux qui, imprégnés d'imaginaires culturels nauséabonds et frelatés, pensent ainsi folâtrer à la recherche d'un trésor à ravir. Tristes déserteurs qui ne se comportent pas mieux que des militaires en campagne. Quelques-unes furent tuées pour avoir simplement rappelé aux voleurs trop entreprenants que d'évidence, il n'y avait aucune cachette.
C'est comme une voiture que tu gardes dans une cité, tu laisses pas des trucs de valeur à l'intérieur parce que tu peux pas empêcher qu'elle soit forcée. Hein. Ma chatte, je peux pas empêcher les connards d'y entrer, j'ai rien laissé de précieux.
Sachant qu'en tant que déserteur ou bandit pris les armes à la main, il risque l'exécution immédiate s'il rencontre des militaires, les brigands ne laissent que très rarement en vie ceux qui les traquent. Néanmoins, les chroniques judiciaires et les autorités militaires mentionnent plusieurs cas où les militaires ont fait preuve de si peu de zèle que les brigands parviennent à échapper à un traquenard ou à s'évader. Dans l'attente d'une solde qui n'est pas versée, ils ne désirent pas mourir pour la patrie en danger. La conscription n'est qu'une forme obligatoire du mercenariat.
Vous avez besoin de la police ?
Ouais.
Dis pourquoi le poulet débarque toujours dans nos soirées.
Les murs ont des oreilles, les portes des Judas.
Dis pourquoi le poulet débarque toujours dans nos soirées.
Les murs ont des oreilles, les portes des Judas.
Les murs ont des oreilles, yeah. Les portes des Judas. Partout le corbeau veille, yeah. Tout en yeah. Tétanière yeah. Sur yeah. Moi.
Nation de Poucave s'adresse à plein, nation de Poucave, morceau. Une bande de Poucave, moté facho qui se défend par allô. Ça rose pète, sauf des sept, j'ai qu'on m'en veut. J'ai trop de cap dans mon aide de pendant mes pauses pètes.
L'espion vient pas du froid, cache juste en tout chez moi. Le James Bond des plafonds, à l'écoute du moindre son, je suis cerné par les bouchards infiltrés par les cafards de l'agent troupe du KGB à la longue vue et à Louis Finn.
Chut, c'est moi la chouette qui guette la moindre fête. Balance-toi ma traite, que je sois tranquille sur ma branchette.
T'es trompé bien bas, découpé, collé des lettres. Pas de coup de barre, tout se barre, peu fade et le coup de tête.
Cette race de bâtards n'a-t-elle jamais été jeune? N'a-t-elle jamais reçu des tasses hystériques au grand de la choux? Prends pas la tête, tu bois trop de café. Fallait bosser, forger, peser et te barrer de la cité. Tu peux marteler le mur, les tuyaux, tout ce qu'il est plus peinture. Y'a qu'une issue pour toi, crécher au milieu d'une pâture.
Dis pourquoi le poulet débarque toujours dans nos soirées.
Les murs ont des oreilles, les portes des Judas.
Dis pourquoi le poulet débarque toujours dans nos soirées.
Les murs ont des oreilles, les portes des Judas.
Du village à la cité, le corbeau s'est adapté. Perché derrière les dos, tous yeux des sens dévoilés. Mais bouge pas, Calimero, si Enderman est sur ta vie, n'ouvre pas.
C'est ça,
où tu trouveras.
C'est Wesson,
permission double zéro. Pour les gens très très spéciaux, alors ton lacet est défait. Bam, bam et deux sur ceux, si du silence, vous vouliez silencieux, je vais t'exaucer.
Oh, y'en a qui travaillent demain.
T'es pas chômeur, de quoi tu plains?
Chauffe pas, putain, j'ai la barre pleine de copains. Ils sont tous foncés et ils chauffent pour rien.
Y'a panique, la balance, la poucave, le mouchard et l'un d'écran. C'est le gardien de la paix, mieux que les écoutes téléphoniques.
Combien de balcons, on sert deux fois ton maton, paparazzi. Ok, pique un docu chef, la grande élite.
On n'est pas derrière la loi, justice mon cœur de te j'pécou. Ça avec les schmitts, ça pardonne pas, ça nous met dans un coup.
La preuve par l'image, un top funnel pour mettre en cage. Où est le capitaine de B?
Mon camion en vie fumée.
Plus le zoom est fastidieux, plus la prise dans le coffre. On aura un sourire pour les herger, les petits oiseaux vont t'enfermer.
Dis pourquoi le poulet débarque toujours dans nos soirées.
Les murs ont des oreilles, les portes des Judas.
Dis pourquoi le poulet débarque toujours dans nos soirées.
Les murs ont des oreilles, les portes des Judas.
Notre douce
12 francs, c'est un chiotte sans PQ. Y'a toujours une mouche à merde pour trahir ton dépourvu. Mais la donneuse du marchand de Z, la petite vérole de pétrole, sera poucave un jour à son tour, on changera les rôles.
Si les sirènes sifflent, c'est que le cap se rebiffe. Si ton voisin souffre, c'est mal rap, qu'avec qui l'étouffe. J'arrache le fil du téléphone pour que personne ne puisse me damner. Pour que durent les trains, butez-moi, pas d'empreinte. Je mets des gants en plastique et j'étrangle l'indice. C'est moi l'abominable, l'exécrable de la part. Le zigouillère, Zyender, qui manœuvre dans ton appart. Je te crève les yeux, je te coupe tes oreilles. Je te tranche la langue à ma mue sans scalpel. T'es qu'une saloperie de vipère, t'es pas ma mère et tu me surveilles. Répands ton venin, jubilant derrière tes jumelles.
Ça sera sans la police, quand se fera justice. Prêt à vivre réfléchi dans ton chip pour que tu saches les risques. Prennent ceux qui notent le numéro de plaque dans ton cerveau, je mets sur un plateau. Citoyen ou collabo, collabo, y'a pas d'autre mot pour faire un rappel de l'histoire. Rappelez d'où venaient les infos de la Gestapo qui amenaient au crème.
De Poucaf père, de Poucaf mère, et aujourd'hui ça persiste, ça doit être héréditaire.
Nous sommes victimes de Poucaf fils.
Si tu leur faisais une bonne coupe de cheveux à ces azous.
Y'a pas d'erreur possible, on est bien en France.
Après l'affrontement du 24 novembre 1802 à l'auberge de Joseph Icard, les autorités se lancent, à partir de leurs maigres informations, dans une vague d'arrestations pour complicité d'aide aux brigands. Outre l'aubergiste, les autres locataires de la maison sont suspectés dès le 8 janvier 1803 d'entretenir des intelligences avec les brigands, et ordre est donné par le préfet de les arrêter. Le 5 mars 1803, un mandat d'arrêt est lancé contre Nanette, sa mère et son parâtre. D'après les notes de l'autorité judiciaire, Nanette est la maîtresse déclarée de l'un des brigands. Absent au moment de la venue des militaires, le 19 mars 1803, François Gacon échappe à l'arrestation. Mais Thérèse, Suzanne venue rendre visite à sa famille, et Nanette sont arrêtées, transférées à la maison d'arrêt de Vinon, puis à Brignoles, et enfin à Draguignan. Arrêté peu de temps après, François Gacon meurt en prison le mois suivant. L'arrestation de Jean-Pierre Ponce, dit Thurier, le 8 avril 1803, est un tournant pour les autorités judiciaires. D'abord fuyant, il admet quelques faits. Impliqué, entre autres, dans la fusillade du 24 novembre 1802, il est condamné à mort avec quelques autres de ses compagnons. Croyant pouvoir ainsi sauver sa peau, Thurier déclare avoir de nouvelles révélations à faire. Bref, qu'il était prêt à balancer. Le 2 août, il se lance dans un long témoignage qui entraîne de très nombreuses arrestations. Avec force détail, il énumère tous les actes de brigandage auxquels il a participé et ceux dont il a entendu parler, et nomme toutes les personnes qui, selon lui, y ont participé. Feu François Gacon, le parrain de Nanette Escartefille, est dénoncé comme étant un receleur et informateur des brigands. Nanette est suspectée par les autorités judiciaires d'être la maîtresse de Tisté Pénas et de profiter des butins. À la question du juge qui lui demande s'il est vrai qu'elle est la maîtresse de plusieurs bandes, Jean-Pierre Ponce se lâche.
Pardonnez-moi, elle était tellement que quiconque voulait jouir d'elle en jouissait. Non seulement elle nous recevait à volonté chez elle toutes les fois que nous désirions, mais encore, soit dans l'auberge, soit dans les bois, elle venait nous chercher, nous agacer et nous provoquer. La payez-vous en argent ou en effet volé ? Nous la payons en argent, en effet volé, chacun de nous lui donnait ce qui lui plaisait. Ne savait-elle pas que ces effets que vous lui donniez provenaient de vol ? Elle le savait si bien qu'elle n'imaginait pas que nous les eussions fabriqués nous-mêmes, et son principal amoureux, qui était Tisté Pénas de Trait, lui en avait tant donné, ainsi que plusieurs d'entre nous, qu'elle devait en avoir vendu et fait beaucoup d'argent.
Suzanne Escartefille est interrogée le 11 août 1803, mais, rapidement disculpée par la balance, elle est libérée le 10 septembre. Thérèse Prévost, la mère, est interrogée le 15 septembre 1803. Elle déclare ne rien savoir à propos d'objets volés et dit ne pas connaître qui sont le ou les amants de sa fille Nanette. Cette dernière est interrogée le 17 septembre 1803. Le juge la questionne pour savoir si elle a connaissance de la présence d'objets volés chez elle et si elle connaît Tisté Pénas, son supposé amant. Elle nie pour les objets, admet connaître Tisté Pénas qui cultive depuis 3 ans des lopins de terre de la famille Escartefille-Gacon, mais sans pour autant le présenter comme son amoureux. Reprenant les mots de Thurier, le juge insiste sur son hypothétique pratique de la prostitution, ce qu'elle rejette catégoriquement. Des 3 mises en cause, seule Nanette n'est pas confrontée au délateur Thurier. Comme il se doit de telles circonstances, Nanette ne sait rien, ne dit rien. Ne jamais dire quoi que ce soit à la justice ou à la police est, ici et toujours, le maître mot. Ainsi que le note allégoriquement le criminologue Marcel Pagnol dans une scène de Marius où les quatre protagonistes jouent aux cartes.
Ah, c'est quand la chose est importante. Ils ont 32.
Et nous, combien nous avons ?
30. Nous allons en 34.
Ce coup-ci, que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Panisque ou Packer.
Si tu avais suivi le jeu, tu le saurais. En tout cas, nous jouons à la muette, il est défendu de parler. Hein.
Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié.
J'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. J'ai jamais vu de figure comme la tienne.
Tu es perdu. Les injures de ton agonie ne peuvent toucher ton vainqueur.
Oui, mais je me demande toujours si Panisque ou Packer.
Quand on joue, on parle pas, même pour dire bonjour.
Je ne dis pas bonjour, je réfléchis.
Réfléchis en silence.
Au long de ces procédures, 293 personnes, 56 femelles et 237 mâles, sont entendus, soit en tant que témoins, soit en tant que mises en cause. Parmi ces dernières, la plupart sont issues des couches sociales les plus pauvres et en grande partie illettrées. Sur 56 femelles, 54, dont Nanette, déclarent ne pas savoir signer. Deux savent. Sur 237 mâles, 132 ne savent pas et 105 savent. Sur ce dernier chiffre, il est à remarquer que 41 font partie des classes bourgeoises et qu'elles sont entendues en tant que témoins. Disculpées, 26 personnes sont libérées. Thérèse Prévost et Nanette le sont le 4 mars 1804. Beaucoup des personnes incriminées par la justice dans ces affaires de brigandage sont décédées avant les procès, tuées dans des accrochages avec des militaires ou lors d'actions de brigandage. À l'issue du procès, le tribunal spécial du Var annonce ses sentences et ainsi, entre 1803 et 1805, les exécutions des quelques survivants se succèdent à Draguignan. Sans attendre l'apparition de la protivophilie, plus de deux siècles après, Jean-Pierre Pons, dit Turier, aurait dû savoir que se comporter ainsi face à la justice ne paye que très très rarement. Il meurt en prison, dans le courant de l'année 1805. Bien au-delà de cet épiphénomène de brigandage dans l'ancienne Provence, il serait possible de faire une longue nécrologie de celles et ceux qui crurent, naïvement, échapper à la mort en donnant des informations ou des personnes à la police ou la justice. La plupart meurent dans les geôles ou bénéficient d'un régime de faveur lors de leur exécution. Fusillés ou guillotinés en dernier, abattus plutôt que torturés, abandonnés ou affamés. Taquine, la justice ôte même ainsi à ses anciens comparses le plaisir de les traiter comme il se doit en de telles circonstances.
C'est monsieur créateur de souvenirs. T'as pas profité des Mai Tai sur la plage ? Toi, où que tu ailles, tu sèmes la destruction. C'est plus fort que toi. Te rends-tu compte de l'importance que cette ville a pour mes affaires ? Mais à quoi tu pensais ? FBI, garde forestier, merde ! T'es un moins que rien. Alors, tu vas tout perdre. Et tu veux savoir pourquoi, mon vieux ? Parce que tu as affronté la mauvaise personne. Élimine-le, je veux plus le voir, il m'ennuie.
De retour à Saint-Martin-de-Palières, Nanette s'y marie le 7 septembre 1807 avec Pierre-Paul Arnoux, trois mois après la mort de sa mère Thérèse. Le nouveau couple s'installe à Vinon, d'où est originaire Pierre, et deux enfants naissent de cette union. Marie-Claire, le 20 mars 1808, et Jean-Joseph, le 26 mars 1810. Pierre décède le 25 mars 1836 à l'hôpital maritime de Toulon. À une date indéterminée, Nanette Escartefigue déménage à Aix, où sa sœur Suzanne habite. Cette dernière meurt dans cette ville le 4 novembre 1840. Nanette décède chez elle le 4 novembre 1847. Son beau-père et un voisin viennent faire enregistrer la mort. L'acte de décès précise qu'elle exerçait le métier de journalière. Sa dernière adresse est le 27 rue du boulevard Saint-Jean, actuelle rue Pavillon. Pour l'instant, la vie de Nanette Escartefigue reste un grand mystère. Les quelques informations disponibles ne permettent pas d'en savoir plus. Des recherches supplémentaires ne permettraient sans doute pas de déterminer quelles furent ses implications réelles dans les actes de brigandage, ni de connaître quelles furent ses mœurs. Ces deux accusations portées contre Nanette peuvent être vraies. Peut-être, libertine ou prostituée, a-t-elle effectivement des mœurs dissolues du point de vue de la morale publique ? Peut-être, elle a profité du brigandage par recel ou par cadeau. Mais nous ne sommes pas en mesure d'affirmer telle ou telle option. Tout au plus, est-il possible de trouver quelques informations de type domestique après son installation à Aix ? Personne n'a pu pour l'instant fournir de textes écrits par Nanette elle-même, ce que les protivaux historiens aiment à nommer ses mémoires de rien. Malgré les évidentes proximités entre la nécrophilie et la protivophilie, il ne semble pas utile pour cette dernière d'en exhumer plus sur Nanette Escartefigue. Et les vomissements provoqués par la lecture des sources policières et du témoignage d'une balance ne permettent jamais d'écrire une vie sans en livrer sa version policière. Il n'y a aucune raison de croire les paroles d'une personne qui ne pense qu'à sauver sa vie grâce à ses révélations, pas plus que celles affirmées lors d'un interrogatoire par un témoin ou un accusé. Face à la police et à la justice, la règle n'est pas de dire la vérité, mais de raconter ce que l'on veut afin d'y échapper, sans ne jamais impliquer d'autres que soi.
Cimetière.
De 1799 à 1804, beaucoup de personnes impliquées dans le brigandage sont abattues lors d'affrontements avec les militaires ou tuées pendant des attaques, exécutées ou condamnées au bagne après décision judiciaire. Les autres sont mortes sans plus de précision. presque 200 personnes, très majoritairement issues de la proche région, meurent ainsi pendant cette période. L'ampleur du phénomène et la dureté de la répression sont considérables pour une si petite zone, avec des répercussions directes sur nombre de familles et individus. La source principale de cette nécrologie est la copie de la procédure contre les prévenus de brigandage comme auteur ou comme complice publiée en 1804 à Draguignan, dont il ne reste que quelques exemplaires, la majorité ayant été détruite par les familles compromises dans les poursuites, selon l'affaire des brigands d'Ops. Selon un historien de la veuve, surnom de la guillotine de Draguignan, le condamné était généralement ligoté et basculé sur le ventre au moyen d'une planche coulissante avant que le couperet tombe. Plus d'un siècle d'utilisation de la guillotine a permis aux autorités judiciaires d'offrir aux badauds le spectacle d'environ 150 exécutions.
Enrobage romanesque.
Le banditisme de grand chemin est un sujet romanesque récurrent et, de par leur histoire, les quatre départements de l'Aix-Provence ont alimenté quelques œuvres fictionnelles dont il est toile de fond. Après son personnage héroïco-comique du braconnier Morin, échappant sans cesse aux mêmes gendarmes, Jean Écart puise dans l'histoire de Gaspard Bouy, né en 1757 à Besse-sur-Issole, dans le Var, pour écrire Gaspard de Besse, un bandit à la française, en 1919. Exécuté à Aix pour crime de vol sur grand chemin avec arme, à l'âge de 24 ans, Gaspard Bouy est sans conteste le bandit du Var ayant le plus titillé la plume. Jouissant d'une réputation sympathique, le présentant habile à détrousser les riches sans violence, épargnant les pauvres et défiant ouvertement la justice, il fournit matière à des poèmes, des complaintes et à plus d'une dizaine de romans depuis la première moitié du XIXe siècle. Après une adaptation cinématographique en 1935 et télévisuelle en 2006 du roman de Jean Écart, Gaspard de Besse devient en 2000 le héros d'une bande dessinée éponyme en 17 tomes. Jean Giono fut lui aussi inspiré par le brigandage. En 1970, L'Iris de Suse, le dernier roman publié de son vivant, retrace l'histoire d'un brigand devenu berger. Un recueil de nouvelles écrites entre 1955 et 1965, intitulé « Récits de la demi-brigade », est édité 2 ans après sa mort. L'une des nouvelles, « La belle hôtesse », s'inspire de Marie Jourdain, dite la belle marchande, inculpée et exécutée à Digne le 22 septembre 1803 pour sa participation aux actes de brigandage dans le Var. L'auteur ne la met pas directement en scène, mais elle est omniprésente. Il fait en effet le choix de situer l'action de sa nouvelle quelque temps après la mort de Marie Jourdain et de l'évoquer à travers les yeux d'une patrouille de militaires en mission dans la région qui ont entendu parler des tristes conséquences des dénonciations de Thurier. Entre 1962 et 1967, Jean Giono écrit Dragon, dont l'intrigue tourne autour d'un hypothétique trésor caché des brigands devant servir à financer le lancement d'une entreprise. Resté inachevé, le roman est publié tel quel en 1982. Les biographes de Jean Giono indiquent qu'il fut toute sa vie à la recherche du quatrième tome de la copie de la procédure instruite contre les prévenus de brigandage comme auteur et comme complice, sans parvenir à se le procurer. La communauté protivophile est en émoi à l'idée qu'un manuscrit inédit de Jean Giono puisse encore être retrouvé. Est-il sur Nanette Escartefigue ?
Après sa mort, Nanette Escartefigue devient elle aussi l'héroïne de 2 romans. Nanette Escartefigue, Histoire de brigand, écrit en 1906, et L'insoumise de l'Estérel en 2013. Dans les 2 cas, les auteurs n'ont pour seule source que l'interrogatoire de Nanette et celui de la balance Jean-Pierre Thurier-Ponce. Ils ne retiennent que quelques dires de ce dernier pour forger un personnage romanesque de Nanette, fort éloigné de ce que l'on peut en savoir réellement. Autant dire rien. Peu perméable à la fiction, la protivophilie ne peut néanmoins ignorer l'existence de cet outil de distraction littéraire, bien antérieur au mot mêlé, que sont les romans populaires. Les 2 romans centrés sur Nanette Escartefigue sont ainsi l'occasion d'étudier 2 styles littéraires différents que la protivophilie qualifie, par manque de termes plus précis, de gariens et de hystérostoriens.
Ils disent que j'ai allumé un feu en toi. D'accord. Je vais l'éteindre alors. Tu es une erreur, une aberration. Tu es un dommage collatéral de mon travail. Une pute. putain de mauvaise herbe dans mon jardin. Et là où tu vas aller. Ils vont tellement tabasser cette légende en toi qu'il en restera plus rien. Même pas un souvenir. Et ta précieuse maison. Ces poutres serviront de traverse pour les chemins de fer. Enterrés dans le sol gelé. Comme le reste de ta famille.
En 1906, à l'âge de 27 ans, Jean Galmot arrive en Guyane avec en poche le titre de propriété d'une mine d'or, le Placé Élysée. Bercé d'idéaux progressistes, il s'installe et fait fortune en instaurant un système économique qui garantit un prix d'achat fixe à ses intermédiaires locaux. Il se lance aussi dans la production de rhum. Se définissant comme un aventurier entrepreneur, Jean Galmot met en place ce que de nos jours, les alter-économistes appellent le commerce équitable. Élu député de Guyane en 1919, il est poursuivi en justice, puis blanchi en 1923 dans une affaire d'enrichissement illégaux. Lors de son procès, il met en avant son commerce équitable et se dit victime des gros propriétaires qui n'apprécient pas ce dit commerce, jugé trop favorable aux intermédiaires et aux salariés. Jean Galmot est de ces entrepreneurs qui pensent qu'il faut distribuer quelques jetons aux joueurs, histoire de les amuser un peu. De nouveau prétendant à la députation en 1924 et favori, il n'est pas réélu à cause des fraudes électorales organisées par son opposant. Pour des raisons que la protivophilie rejette et que rien ne peut justifier, Jean Galmot dénonce un ami, Alexandre Stavinsky, ainsi devenu ex-ami en 1926. Ce dernier écope de 18 mois de prison pour différentes accusations de fraude et d'arnaque. Le 6 août 1928, Jean Galmot est retrouvé mort à Cayenne. Les circonstances obscures de cette mort et les rumeurs d'empoisonnement qui circulent rapidement déclenchent des émeutes à Cayenne. 14 personnes sont jugées en mars 1931 à Nantes pour leur participation à ces émeutes. Mais le procès se transforme en charge contre l'esclavage et le colonialisme par les avocats de la défense et les accusés sont alors acquittés. Une statue lui est dédiée dans la ville de Cayenne. C'est avant de partir en Guyane que Jean Galmot publie à Nice son roman « Nanette Escartefigue, histoire de brigand » qu'il sous-titre « Les barbés du comté de Nice et les réquisitionnaires de l'Estérel ». Dans ce récit imaginaire, il mêle l'histoire des résistances à l'annexion par la France du comté de Nice et les déserteurs qui refusent de servir dans l'armée française avec le banditisme du Var et ses propres déserteurs. Dans cette fiction, Nanette Escartefigue est amante de Jean-Pierre Ponce, dont elle partage le lit et les actes de banditisme. Ensemble, ils tentent de fédérer les barbés niçois et les bandes de brigands. Romance, héroïsme et trahison sur fond historique, avec un brin de sordide. Nanette, enceinte, est chassée de la prison de Nice et accouche de manière misérable alors que son nouvel amant et père de l'enfant est tué après avoir sombré dans la folie. Sans y prétendre pour autant, ce roman de Jean Galmot est sans conteste un indice de sa clairvoyance quant à l'avenir du roman de gare. Celles et ceux qui défendent son côté progressiste et engagé peuvent peut-être voir dans son récit une allégorie politique pour dénoncer l'annexion de Nice par la France en 1860 et l'ouverture de la gare 4 ans plus tard. Cet engagement et cette praxis politique de proposer au plus grand nombre des lectures faciles pour influencer rétrospectivement sur le cours des choses sont qualifiés par ses défenseurs de gariens.
L'héroïsme, n'avoir rien à dire et ne rien dire quand même. Éloge de rien, 2014.
Autre style particulier de la littérature, l'hystérostorien est un savant mélange de théories sur l'hystérie, d'un brin d'éros et d'un aplomb d'historien. Moins drôle que les dialogues de San Antonio, moins sexuel qu'un SAS et un air de déjà-vu comme une couverture de l'Arlequin, l'hystérostorien est un rendu littéraire qui en dit beaucoup sur les appétits sexuels et les fantasmes des auteurs. Dans L'insoumise de l'Estérel, publié en 2013, Michel Gardère invente une histoire dans laquelle Nanette est une chef de bande de brigands essentiellement constituée de jeunes hommes réfractaires à la conscription. Pour les amadoués, elle couche avec tous les nouveaux en leur faisant miroiter la prochaine fois. À travers un récit pseudo-historique, Michel Gardner nous livre toute une part de lui-même, de ses envies et de ses faces cachées. Mettant fin à des années d'attente fébrile pour ses fanatiques lecteurs, l'auteur nous livre enfin sa conception de la femme fatale. Si rien ne correspond à ce que nous savons de Nanette Escartefigue, presque tous les poncifs connus sur une soi-disant féminité y sont présents. L'hystérostorien est de ceux qui hésitent dans leur choix. Écrire un livre érotique ou pas ? Assumer son sexisme ordinaire ou pas ? Être écrivain n'est pas une chose facile. La protivophilie l'incite plutôt à rien.
Rien de plus ?
Comme cela est souvent le cas, les liens entre F. Merjanov et d'autres personnes tiennent à rien. Pour la protivophilie, il est évident qu'il en est de même avec Nanette Escartefigue. Ces personnes sont celles qui n'ont pas désiré que l'on s'exprime à leur place, qu'on leur fasse dire et faire des choses qu'elles n'ont pas voulu, ou tout simplement, qui n'ont pas exprimé le souhait que l'on en sache plus sur elles. De la même manière que pour Nanette Escartefigue, rien de ce qui peut être écrit à propos de F. Merjanov ne saurait être considéré comme véridique. Pour les hystérostoriens et les gariens inspirés, la protivophilie, en ce qui concerne F. Merjanov, renvoie à la courte biographie qui lui est consacrée. Rien de plus à dire. Même si les préoccupations de la protivophilie sont tout autres, l'écriture d'une fiction est un exercice littéraire qui peut présenter quelques intérêts. Sans se fier au dire de la police ou de l'un de ses informateurs, il est toujours possible d'inventer des personnages romanesques à partir de personnes historiques liées à des événements réels. Pour faire sortir de l'anonymat celles et ceux que l'histoire officielle n'a pas retenu, à dénigrer, récupérer ou totalement détourner. Ou prendre prétexte d'une situation historique précise pour en inventer une autre version. Dans le cas du brigandage dans le Var, les quelques femmes impliquées et condamnées auraient pu servir de base pour des personnages romanesques. Sans verser dans l'héroïsme couillu, elles permettent de mettre en avant la participation de femmes à tous les niveaux de l'organisation, informatrices, receleuses, logistiques et participation directe aux attaques. Un scénario pourrait ainsi décrire des formes d'organisation secrète entre femmes brigandes, en parallèle du réseau des hommes, dans lequel elles se protègent des violences sexistes, se vengent parfois, s'autonomisent financièrement en pratiquant elles-mêmes des actions de brigandage, viennent en aide à celles qui cherchent à avorter ou à fuir vers la ville, cachent les fuyards condamnés par la justice, etc. 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 Rien. Le quatrième mardi du mois à 17h. Le vendredi à 9h30. 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort. 102.0 à La Salle. 103.3 de Ganges-Vigan.